buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et à toutes. Au Vatican aussi, la parole des femmes se libère. Dans le supplément mensuel de l'Osservatore Romano, le très sérieux quotidien du Saint-Siège, une enquête fait la lumière sur les conditions de travail des religieuses. Souvent au service de cardinaux ou d'évêques, ces religieuses dénoncent des rythmes excessifs de travail domestique sans avoir bien souvent leur mot à dire. C'est un vrai tabou qui se lève. Reportage d'Éric Sénanque.
Nous sommes sur la place Saint-Pierre, dont la cloche égrène les heures. Ici, au milieu des visiteurs venus du monde entier, se mêlent les soutanes des prêtres et les habits des religieuses. Elles sont nombreuses, ces femmes venues dans la capitale du christianisme. Certaines étudient la théologie ou la philosophie dans des universités pontificales. Elles enseignent parfois dans des écoles catholiques. D'autres travaillent aussi au service de cardinaux ou d'évêques. Un travail parfois ingrat, voire même à la limite de l'esclavage. L'enquête choc du supplément féminin de l'Osservatore Romano a été reprise dans le monde entier. Son titre, le travail quasi gratuit des sœurs. Ces femmes sont le plus souvent réduites au silence. Sister Mary est une religieuse américaine. Nous la retrouvons dans un café juste à côté du Vatican. Pendant 9 ans, elle a travaillé dans une librairie de livres religieux à quelques mètres des murs du Vatican. Sister Mary est ce que l'on pourrait appeler une féministe. Elle travaille depuis longtemps sur la question de la femme dans l'Église et connaît de nombreuses religieuses qui multiplient les travaux domestiques au Vatican sans rétribution. Pour elle, l'enquête a visé juste car certaines de ses sœurs ont peur de parler.
Une des sœurs que je connais fait le ménage chez un des cardinaux. On s'est vu très récemment, mais j'ai reçu d'elle hier un message très étrange me disant qu'on n'allait plus communiquer via WhatsApp, que c'était une décision personnelle et qu'elle espère que je comprenne. Mais moi, comme religieuse, j'arrive à lire entre les lignes et je sais qu'il se passe quelque chose. J'espère juste qu'on ne l'a pas forcée à couper les contacts avec le monde extérieur suite à cette enquête.
Dans de nombreux cas, les religieuses viennent de pays pauvres, d'Afrique ou d'Amérique latine, souvent envoyées à Rome par leur congrégation. Certaines ont des histoires compliquées, des blessures, et bien souvent elles préfèrent se taire car elles se sentent redevables. Lucetta Scarafia dirige le supplément féminin de l'Osservatore Romano qui a publié l'enquête sur les religieuses. Pour elle, le travail non avouable des sœurs est une réalité connue, en tout cas à l'intérieur de l'Église catholique.
Ces dernières années, nous avons reçu beaucoup de lettres de religieuses. Beaucoup sont venues nous voir, donc c'est une réalité que nous connaissons. Ces lettres, elles viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Italie. Et on en a reçu beaucoup après la publication de l'enquête, des lettres qui nous remerciaient. Il y en a une, d'Espagne notamment, que j'ai trouvée terriblement triste et dramatique, où les sœurs racontent leurs conditions de vie, qui souvent sont très dures. La chose dont elles pâtissent le plus est d'être traitées comme si elles étaient des servantes qui doivent manger de leur côté, ne jamais partager la vie des évêques ou des cardinaux, qui pourtant parlent de famille en évoquant ces religieuses. Mais elles ne mangent pas avec eux, ne leur parlent pas, elles ne partagent rien avec eux. Il n'y a aucun échange humain entre eux.
L'enquête de l'Osservatore Romano soulève aussi le problème de la rétribution. De nombreuses religieuses, en effet, travaillent gratuitement sans compter leurs heures. Bien souvent, aucun contrat ou convention n'a été signé pour établir leurs conditions de travail. Et quand elles sont payées, c'est souvent beaucoup moins qu'un homme d'église. Mais au-delà de ces conditions de travail, c'est toute une vision de la femme qui pose problème. Cela dépasse même les murs du Vatican et concerne toute l'Église catholique. Lucetta Scarafia.
Les cardinaux ou les évêques ne sont pas les seuls à avoir leurs sœurs. De nombreuses institutions font pareil, comme les séminaires. Dans leur majorité, ils vivent grâce au travail des religieuses. Elles font le ménage, la cuisine, elles lavent et repassent le linge des futurs prêtres. Et donc, ces séminaristes apprennent à voir les femmes seulement comme des servantes. Ça va marquer toute leur vie. C'est la dure réalité, mais beaucoup d'institutions sont dans ce cas.
Pour Sister Mary, si les choses ne bougent pas, à commencer au Vatican, c'est bien à cause de la peur.
Il y a une attitude défensive de la part de la hiérarchie face à cette question. Je crois que c'est parce qu'il y a des voix de femmes en colère et elles ont le droit de l'être. Elles sont blessées et elles ont le droit de l'être. Et c'est très difficile pour des hommes de l'entendre. Je pense que beaucoup d'hommes dans l'Église ont peur de nous écouter parce que souvent on les bouscule pour qu'ils réagissent. Mais il faut changer les règles du jeu, sinon l'Église restera déséquilibrée.
Il y a 5 ans, lors d'un colloque sur le rôle de la femme dans l'Église, le pape François avait pris la parole. Il s'était insurgé contre la servitude à laquelle étaient réduites certaines de ces femmes. Si la parole se libère aujourd'hui, le chemin semble encore long pour changer les mentalités.
Changer les mentalités, cela prend du temps aussi en Macédoine, surtout sur l'homosexualité. Dans ce pays, revendiquer son homosexualité reste un parcours du combattant. Bekim Hassani est bien placé pour le savoir. Insultes, menaces de mort, agressions physiques. Voilà le prix à payer pour ce jeune Albanais de Macédoine qui milite depuis des années pour le droit des personnes LGBT dans sa ville de Tetovo. Simon Rico nous dresse son portrait.
Bekim Hassani est homo et fier de l'être. Il a fait tatouer les lettres LGB et T sur les 4 doigts de son poing droit. Pourtant, depuis qu'il a fondé l'association Tetovo United, les intimidations ponctuent son quotidien, vitres de son appartement brisées, insultes, brimades et même un kidnapping pendant 6 heures en 2013. C'était 1 an après l'ouverture du bureau de l'ONG. Malgré ses pressions, Bekim Hassani refuse catégoriquement l'idée de quitter la Macédoine. Il a revendiqué très jeune son homosexualité et malgré les remarques des proches et des voisins, ses parents adoptifs, des musulmans pratiquants, l'ont toujours soutenu. Puis très vite, Bekim s'est mis à militer. La nuit, il taguait des slogans pro-LGBT avec son petit groupe de potes gays parce que, comme il le regrette, peu d'Albanaises osent encore se revendiquer lesbiennes. À Tetovo, Bekim ne passe pas inaperçu avec ses tatouages, ses piercings et sa longue barbe brune. En décembre dernier, il a dû passer chez le barbier avant de se rendre à l'ambassade de France recevoir le prix franco-allemand des droits de l'homme. La présence du Premier ministre Zoran Zaev à ses côtés a contribué à sa notoriété, mais aussi à la multiplication des menaces sur les réseaux sociaux. En Macédoine, la situation des LGBT reste en effet l'une des pires du continent européen. Bekim Hassani se félicite néanmoins de constater que la nouvelle majorité social-démocrate au pouvoir depuis le printemps 2017 se montre plus ouverte sur la question. Fin février, une commission parlementaire a ainsi été mise en place pour modifier la législation et permettre enfin que les LGBT aient les mêmes droits que les autres citoyens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors avec vous aujourd'hui, on fait le tour de la presse européenne de ces derniers jours avec en ligne de mire une actualité bien française, la grève qui fait couler beaucoup d'encre chez nos voisins.
Eh oui, vous imaginez bien Laurent qu'il s'en donne à cœur joie, quoi de plus caricaturalement français que la grève, qui plus est quand elle est annoncée sur 3 mois. Il faut dire que nos voisins sont aussi un peu concernés car les trains circulant vers l'Italie, l'Espagne ou encore la Suisse sont aujourd'hui tous arrêtés. La grève fait donc la une ce jour du quotidien espagnol El País, mais c'était déjà le cas hier, notamment chez nos confrères italiens de Il Giornale, qui annoncent la couleur. 13 semaines pour faire plier Macron, la réponse des cheminots au président qui se vantait de ne pas sentir la colère dans le pays. Une durée également affichée dans les pages du quotidien portugais Diário de Noticias, qui résume 3 mois de grève, des trains au ramassage des déchets, les syndicats contre Macron.
Et en face de Macron, un certain moustachu dont les journaux européens dressent le portrait.
Oui, le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, et pour El Mundo, le supporter du Barça, un dur de dur qui veut enflammer la France contre Macron, sans oublier de rappeler ses racines espagnoles, bien sûr, et le passé de son père, ancien résistant du franquisme, et de sa mère née à Santander. Côté suisse aussi, on souligne le rôle qu'il va prendre de son combat de force entre l'exécutif et les syndicats. Le journal Le Temps fait, lui, référence à son parcours dans la métallurgie et l'automobile.
Alors, ce bras de fer ne porte pas sur n'importe quelle réforme, car pour certains observateurs européens, le président Macron s'attaque à une véritable vache sacrée.
Ni plus ni moins, c'est à lire dans les pages du quotidien néerlandais des Volkskrant, pour qui le statut des cheminots créé dans les années 1920 est un véritable symbole ouvrier français, devenu pour le président incompatible avec le nouveau monde qu'il souhaite de ses voeux. D'innombrables responsables politiques s'y sont cassés les dents, rappelle le journal. Avant de conclure, si Macron parvient à supprimer ce statut, il entrera dans les annales et ouvrira la voie à d'autres. d'autres réformes.
Alors que d'autres journaux, eux, jugent l'art et la manière plutôt corsée.
Selon la Süddeutsche Zeitung, derrière la stratégie de Macron, il y a d'abord l'idée répandue dans son pays, selon laquelle, en début de mandat, le président devrait imposer son leadership en menant la mère de toutes les batailles. Cela relève pour le quotidien allemand d'une compréhension archaïque de l'autorité, le président appréciera, mais aussi et surtout d'une stratégie risquée.
Oui, parce que si l'issue du conflit lui est défavorable...
Dans ce cas, souligne Die Tageszeitung, autre quotidien allemand, berlinois cette fois-ci, le président Macron pourrait voir sa position grandement affaiblie et son calendrier des réformes en péril. Une chose est sûre, la grève qui a commencé lundi soir est annonciatrice d'un certain chaos, conclut le journal. Retour à la Süddeutsche Zeitung, qui malgré tout se réjouit de cette réforme, réclamée de longue date par les gouvernements européens, et notamment allemands, car elle permettra d'ouvrir les rails français à la concurrence au sein de l'Union.
Alors on retrouve ce même enthousiasme dans les pages d'un quotidien zurichois.
Le Neue Zürcher Zeitung lui tranche carrément en faveur de la réforme. Pour la publication suisse, revenir sur le statut des cheminots s'impose, car je cite, dans leur forme actuelle, leurs privilèges sont indéfendables et injustes vis-à-vis des travailleurs d'autres secteurs.
Et de l'autre côté de la Manche, les éditorialistes se montrent plutôt philosophes, on va dire.
Notamment dans les pages du Guardian, pour qui la France peut certainement tirer les enseignements des remous de la récente histoire ferroviaire britannique. À y regarder de près, poursuit le journal, on observe deux situations bien distinctes. Le système ferroviaire britannique est l'illustration des dangers d'une privatisation sans réforme. Celui de la France souligne les problèmes d'une compagnie publique sans réforme, elle non plus. En réalité, il ne s'agit pas de substituer un système à un autre, mais de les faire évoluer tous les deux.
Enfin, il y a un point sur lequel les éditorialistes sont d'accord. L'opinion aura le dernier mot.
Non sans relever un certain paradoxe, The Economist remarque par exemple dans ses colonnes que l'opinion semble à la fois soutenir les grévistes, comme elle l'a toujours fait traditionnellement, et approuver les réformes économiques à suivre.
Merci Evmino, on vous retrouve la semaine prochaine sur Accent.
À la semaine prochaine. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes, Barcelona.
En Espagne, Barcelone est devenue en quelques années la ville la plus chère du pays pour se loger. Inexorablement, les loyers continuent à grimper. Conséquence de cette escalade des prix, beaucoup de locataires sont obligés de quitter leur logement pour aller vivre plus loin du centre de la capitale catalane. À Barcelone, reportage de Laetitia Farine.
C'est une opération coup de poing. Dans la mairie du quartier de l'Eixample et de Barcelone, une quarantaine de personnes scandent le nom de deux immeubles bien connus du voisinage. Deux immeubles qui ont été rachetés par un groupe immobilier espagnol important et qui vont être rénovés pour être remis sur le marché au prix fort. Les locataires ont été priés de quitter les lieux au plus vite. Une situation inadmissible pour Carlos Berrocal, 46 ans, qui habite l'immeuble depuis 1995.
Un mois avant la fin de mon contrat, qui s'est terminé en octobre 2017, ils m'ont annoncé par courrier recommandé qu'ils ne renouvelaient pas mon contrat. Je me suis senti indigné, frustré. Je n'ai pas compris leur décision, surtout après tant d'années où j'ai rempli ma part du contrat. J'ai donc répondu que je n'étais pas d'accord et que je ne m'en irais pas. J'ai continué à payer le loyer, j'ai essayé de négocier avec eux, mais ce n'était pas possible. Et puis, il y a près d'un mois, une demande d'expulsion. J'ai donc engagé un avocat et on verra ce qu'il se passe.
Après la manifestation, des représentants au logement de la mairie se sont engagés à jouer les médiateurs entre les locataires de ces deux immeubles et le groupe immobilier. Pour l'instant, l'affaire n'est pas encore réglée. Le texte le plus controversé en termes de droit au logement est la loi espagnole sur les loyers urbains qui date de 1994. Modifiée en 2013, elle stipule désormais que la fin du contrat de location peut désormais avoir lieu tous les 3 ans au lieu de 5 ans auparavant. Pour Marta Ilraga, porte-parole de l'association des locataires, cette loi encourage la gentrification et fragilise la situation des locataires.
Ce raccourcissement de la durée des contrats génère un marché très dynamique, favorable aux investisseurs étrangers et espagnols. C'est ce qui engendre des pratiques très violentes qu'on nomme « violence immobilière ». C'est quand les propriétaires font pression sur les locataires pour qu'ils s'en aillent, afin de vendre l'immeuble complet, de le rénover, de le remettre sur le marché. C'est complètement légal, mais c'est illégitime. L'un de nos objectifs à long terme, c'est de modifier la loi et faire en sorte qu'elle protège réellement le droit au logement. Mais comme ça peut prendre des années, nous avons décidé de résister en descendant dans la rue et en forçant les propriétaires à renouveler les contrats dans de bonnes conditions.
À chaque fin de contrat, trois choix s'offrent aux propriétaires. Renouveler le contrat tel quel pour au moins 3 ans, décider de mettre un terme au contrat, mais il peut également décider d'augmenter le loyer. Cette augmentation n'étant soumise à aucune régulation, le loyer peut augmenter fortement selon le bon vouloir du propriétaire. Le cas de Conchita Torné illustre bien l'évolution de la situation locative dans la capitale catalane. Cette Barcelonaise de 61 ans vit dans un appartement de 170 mètres carrés dans le quartier de l'Eixample, pour lequel elle payait depuis 15 ans 1 150 € par mois. Un prix très bas qui s'explique, selon elle, par le mauvais état de l'appartement quand elle l'a pris en location, ainsi que par la mauvaise réputation du quartier à l'époque. À la fin de son contrat, il y a quelques mois, les propriétaires ont décidé d'augmenter son loyer de plus de 70%, une augmentation impossible à assumer pour Conchita.
À la fin du contrat, ils m'ont demandé 2 000 € au lieu de 1 150. Je leur ai dit que non, que je ne pouvais pas. Et j'ai demandé à ce que le loyer soit adapté à la moyenne du taux d'augmentation normal du marché. Ils m'ont finalement renouvelé le contrat pour 5 ans au lieu de 3, le minimum imposé par la loi. Mais ce renouvellement est un peu trompeur. Pourquoi ? Parce que le loyer est de 1 500 € pour les 2 premières années. La 3e année, ce sera 1 600 €. Et la 4e et 5e année, ce sera 1 800 €. Je gagne 1 600 € par mois. Et mon mari est à la retraite. Donc, bien sûr, c'est impossible pour moi d'assumer cela. Maintenant, il faut que je trouve calmement un autre appartement parce qu'en réalité, on me met à la rue.
Sabes? En 3 ans, les prix des loyers ont augmenté de plus de 30% à Barcelone pour les petites et les grandes surfaces. Il faut désormais compter autour de 825 €, soit le salaire minimal espagnol, pour louer un 53 mètres carrés. Une augmentation qui ne touche plus seulement la capitale catalane, mais aussi les alentours.
Une exposition qui rappelle un temps bien révolu en Turquie, alors que les consommateurs d'alcool se plaignent des prix de plus en plus élevés et des restrictions imposées par le gouvernement. Au musée de la mer d'Istanbul, on peut découvrir les jardins à bière qui florissaient il y a un peu plus d'un siècle, alors symbole de modernité ultime pour les élites ottomanes. Anand Lower.
L'exposition est presque un choc visuel. Depuis qu'une série de lois interdit toute publicité pour l'alcool, les noms des marques de bière et autres boissons alcoolisées ont totalement disparu de l'espace public turc, que ce soit dans les magazines, en vitrine des boutiques et des bars, ou dans les festivals et événements sportifs que ces marques sponsorisaient. Mais à la fin du 19e siècle, période où est fondée à Istanbul la brasserie Bomonti, le fil rouge de l'exposition, naissait ici et là, à Istanbul, Izmir ou Ankara, ce qu'on appelait alors des jardins à bière. Impensable aujourd'hui. La bonne société de l'époque, les élites occidentalisées surtout, venaient s'y asseoir en famille ou entre amis, femmes et hommes, le fez vissé sur la tête, autour de grandes tablées parsemées de bouteilles en verre et de chopes bien remplies. Ces jardins étaient nés dans la foulée de la brasserie Bomonti, du nom du fondateur, un Allemand, avec pour objectif d'encourager la consommation de bière, boisson alors peu répandue dans la capitale de l'Empire. L'un de ces jardins à bière est reconstitué à la fin de l'exposition. La bière envoyait une image de modernité, elle était promue comme telle. Selon les archives de l'époque, à la toute fin du 19e siècle, on comptait à Istanbul 33 bars à bière et 6 usines de fabrication, la brasserie Bomonti dominant le marché. L'exposition regorge d'objets et de documents, vieilles bouteilles, verres, chopes, cartes postales, photographies, coupures de presse annonçant un concert ou un après-midi dansant dans un de ces jardins. Ces archives sont issues d'une collection privée vendue en 2009 à Anadolu Efes, le plus gros producteur de bière de Turquie auquel appartient désormais la marque Bomonti. Car la brasserie ottomane a continué de prospérer sous l'ère républicaine, malgré sa nationalisation dans les années 1930, comme toutes les marques d'alcool et de tabac. Le monopole d'État a pris fin dans les années 1960, et l'usine Bomonti n'a cessé de brasser de la bière qu'en 1991. Mais le bâtiment existe toujours, avec sa tour pointue si caractéristique. Les lieux ont été récemment restaurés et abritent désormais un centre culturel, des restaurants et une petite brasserie.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission et sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.